Il est tout juste 6h30 à Antananarive, 3h30 en temps universel.
Édouard Dupenoit.
Et vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale. Bonjour, bienvenue. Une première édition africaine ensemble et l'océan Indien en ligne de mire. La COI se réunit à Antananarive, commission de 5 pays qui discutent commerce alimentaire, protection de l'environnement, sécurité, souveraineté politique aussi. L'ancien ministre malgache des Affaires étrangères est l'invité Afrique de RFI après ce journal. Volodymyr Zelensky en Afrique du Sud. Le président ukrainien se déplace pour la première fois sur le continent africain. Kinshasa et l'AFC M23 vont travailler ensemble à une trêve. Les deux parties en conflit dans l'est de la RDC communiquent ensemble sur leur volonté de travailler conjointement. Au Soudan, l'exil forcé une fois de plus pour les déplacés de Zamzam, ces centaines de milliers de personnes qui ont dû fuir encore en catastrophe le pilonnage de leur camp orchestré par les forces loyales à Hemeti. Des réfugiés expulsés par centaines d'Algérie aussi, plus de 1100 personnes convoyées samedi dernier vers la frontière avec le Niger. Et puis, les portraits à suivre dans nos journaux des candidats au prix RFI France 24, Marc-Vivien Fauhé. On vous brosse en fin de journal celui de Yahya Fofana, portier des éléphants, portier aussi du SCO d'Angers. La commission de l'océan Indien se réunit donc aujourd'hui à Antananarive, Madagascar, les Seychelles, Maurice, les Comores et la France, représentée dans la capitale malgache. Alors que la région est devenue ces deux dernières années un point névralgique du commerce international, mais aussi de tensions géopolitiques. Les réunions de la COI sont rares, ça n'est que le cinquième sommet depuis sa création dans les années 80. On y discutera sécurité alimentaire, protection de l'environnement et souveraineté politique. Également, le président français Emmanuel Macron a fait le déplacement, la France présente dans la COI au titre de la réunion. Le chef de l'État aimerait que Mayotte soit membre également, ce que les Comores ont toujours refusé. Correspondance Pauline Le Troquier.
L'enjeu est de taille pour Emmanuel Macron, le chef de l'État français, à une occasion unique de plaider pour l'intégration de Mayotte au sein de la COI auprès des principaux concernés, à commencer par Azali Assoumani. Le président comorien qui revendique ce territoire lui a jusqu'ici toujours opposé un refus. Pour Paris, Mayotte en tant qu'île française doit bénéficier, au même titre que la Réunion, des programmes et des fonds de la COI. Paris défend donc une question d'équité et recherche une victoire politique au sein de l'organisation. Il s'agit de consolider la place de la France dans la région, via le canal du Mozambique. Madagascar, le pays hôte de l'événement, a de son côté l'occasion d'affirmer son potentiel en termes de sécurité alimentaire. La grande île rassemble 98% des terres agricoles de tous les États membres de la COI. Elle pourrait être le grenier de l'océan Indien, à condition d'harmoniser les règles de libre circulation des biens entre les États membres. Celles-ci sont à ce jour loin d'être optimales dans une région largement dépendante des importations avec le reste du monde. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Invité de la rédaction donc après ce journal, l'ancien ministre malgache Richard Ranjamandrat pour évoquer plus en détail aussi le dossier particulièrement sensible entre la France et Madagascar des îles éparses dans le canal du Mozambique. Au moins 2 morts encore ces dernières heures en Ukraine, 54 blessés aussi dans une frappe de missiles russes sur Kiev, la capitale. La guerre se poursuit au quotidien alors que les négociations patinent. Le président américain Donald Trump se dit à bout de patience. Il accuse de nouveau son homologue ukrainien de saboter un éventuel accord. Volodymyr Zelensky, de son côté, arrivé en Afrique du Sud, c'est la première fois qu'il se rend en personne sur le continent africain, dans un pays qui tente d'afficher son non-alignement depuis l'éclatement de la guerre il y a 3 ans. Le refus de Pretoria de condamner l'invasion russe lui avait valu des critiques, notamment des États-Unis. Une ligne de crête diplomatique délicate, Valentin Hugues.
Dans la même semaine, l'Afrique du Sud parle à la Russie et à l'Ukraine. Lundi, appel téléphonique entre Cyril Ramaphosa et Vladimir Poutine. Ce jeudi, le président ukrainien est attendu à Pretoria. Et si l'Afrique du Sud n'a pas condamné l'invasion russe en février 2022 et fait partie des BRICS avec la Russie, elle tente de se placer en médiateur, rare pays à pouvoir parler avec Kiev et avec Moscou. Aujourd'hui, l'objectif principal côté Afrique du Sud, c'est donc de continuer les efforts pour tenter de résoudre pacifiquement le conflit, explique la présidence. Pour l'Ukraine, c'est aussi une volonté de renforcer ses liens avec le pays et demander une plus grande implication, notamment pour le retour des milliers d'enfants ukrainiens déportés en Russie depuis le début de la guerre, sujet souvent au cœur des discussions entre les deux pays. Plus globalement, l'Ukraine tente aussi de se rapprocher davantage du continent. En 2023, Cyril Ramaphosa s'était rendu à Kiev avec plusieurs dirigeants africains. La rencontre entre Volodymyr Zelensky et Cyril Ramaphosa est prévue en fin de matinée au palais présidentiel de Pretoria. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Le fragile espoir d'une trêve ravivée dans l'Est de la République démocratique du Congo dans le conflit entre l'armée congolaise et le groupe armé de l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Pour la première fois hier, les deux camps ont communiqué conjointement sur leur volonté de travailler à la conclusion d'une trêve, déclaration qui survient près de deux semaines après la médiation opérée par le Qatar dans ce dossier. Et déclaration encore bien floue dans les faits, difficile de savoir ce qu'elle recouvre. On n'en est pas encore, Patient Ligodi, à une cessation des hostilités.
Ce n'est pas encore un cessez-le-feu, ce n'est pas non plus une trêve. À ce stade, c'est une déclaration d'intention, un communiqué dans lequel les deux parties affirment avoir convenu de travailler ensemble à un accord. Comme RFI l'annonçait déjà, ce texte était prêt depuis le 17 avril. Il avait été élaboré 4 jours après la fin des discussions directes entre les délégués de Kinshasa et ceux de l'AFCM23. Il ne manque plus que l'approbation formelle de Félix Tshisekedi. C'est désormais chose faite, le président congolais a donné son feu vert. Et les documents ont été publiés dans la foulée conjointement par les deux parties. Et la prochaine étape, il s'agit maintenant de respecter les engagements pris avant d'ouvrir un véritable dialogue de fond. Parmi ces engagements, le rejet des intimidations et la volonté de créer un climat propice aux échanges. Le dialogue attendu doit porter, selon les deux parties, sur les causes profondes du conflit et sur les modalités concrètes pour ramener la paix dans les territoires de l'Est. Cette annonce intervient aussi au lendemain d'une rencontre entre le ministre d'État qatari, Mohamed El Koulaifi, en charge du dossier, et Massad Boulos, le nouveau conseiller principal pour l'Afrique à la Maison-Blanche.
Patient Ligodi, il est 4h37 à Kinshasa. La guerre, toujours d'une rare violence dans l'ouest du Soudan. Des tirs d'artillerie ont fait au moins 30 morts et des dizaines de blessés ces derniers jours sur El Fasher, capitale du Darfour Nord, qui échappe au contrôle des forces de soutien rapide du général Hemeti. Faute d'avoir pu s'en emparer ces dernières semaines, ces FSR ont tenté de prendre le gigantesque camp de Zamzam à une vingtaine de kilomètres de là. Plus de 500 000 personnes ont été obligées de fuir, de nouveau et dans des conditions inhumaines. 500 000 de civils, où ont-ils pu se réfugier et dans quelles conditions? L'ONG Solidarité Internationale est l'une des rares qui opère encore dans cette région. Justine Musique-Picmal en est une directrice régionale.
Il y avait plus ou moins 500 000 personnes, entre 500 000 et 700 000 personnes dans ces différents camps à ciel ouvert. Aujourd'hui, les camps sont fermés. Ils ont été absolument détruits. Il n'y a plus d'acteurs humanitaires et l'ensemble de la population est partie. Elle est partie au départ vers El Fasher, parce que du coup, il y a une route qui fait Zamzam El Fasher. Une autre partie, donc plus de 250 000 personnes, viennent d'arriver sur Tawila, donc au sud camp de Zamzam. C'est 24 heures de marche. Et là, depuis samedi dernier, les bombardements ont repris très activement sur El Fasher. Et là, les gens rebougent aujourd'hui entre El Fasher et Tawila. Et on est sur 75 kilomètres. Alors, il faut imaginer un désert absolu où il y a absolument rien sur les routes. Et quand les gens arrivent à Tawila, donc là, les équipes de solidarité internationale sont sur place depuis plus de 12 mois, on a des gens qui n'ont pas bu depuis 48 heures. Donc, on a mis en place un système d'eau potable extrême sur le bord des routes, mais on ne peut pas aller sur les routes, extrêmement dangereuses aujourd'hui.
Justine Musique-Picmal, directrice régionale de Solidarité Internationale, propos recueillis par Alexandra Branjon. Le sort des populations réfugiées qui inquiète aussi particulièrement les associations nigériennes qui leur viennent en aide. L'Algérie a expulsé de son territoire 1140 migrants en une seule journée, c'était samedi dernier, dans des conditions qui indignent donc les défenseurs des droits humains, puisque ces exilés sont convoyés à la frontière algéro-nigérienne dans le désert, charge à eux ensuite de couvrir à pied par leurs propres moyens la quinzaine de kilomètres qui les sépare de la ville la plus proche. Clotilde Hasard, jamais Alger n'avait expulsé autant de migrants en une seule vague.
1140 personnes expulsées d'un coup, c'est du jamais vu, selon le collectif d'associations nigériens Alarm Fund Sahara, qui vient en aide aux migrants sur les routes dans le désert. Ces personnes venaient en majorité d'Afrique subsaharienne et 3 venaient du Bangladesh. Elles ont été abandonnées par les autorités algériennes près de la frontière du Niger, dans un endroit surnommé le Point Zéro. Les personnes expulsées doivent ainsi marcher une quinzaine de kilomètres pour rejoindre la localité la plus proche de la frontière au Niger, à Samaka. Sur la route, elles sont livrées à elles-mêmes dans une chaleur extrême qui fait régulièrement des victimes. Cela fait des années que de telles expulsions ont lieu sur cet axe, mais leur nombre est en forte hausse. Sur le mois d'avril, 4000 personnes sont arrivées à Samaka. Certains migrants reprennent la route vers le nord dès qu'ils sont débarqués du convoi d'expulsion, mais beaucoup repartent dans leur pays d'origine avec leur propre argent ou celui reçu de leurs proches. Et la majorité s'enregistre auprès de l'OIM et des organisations présentes pour bénéficier d'un voyage retour dans leur pays. Mais ces procédures volontaires prennent du temps et sur place, ces personnes manquent de tout. Celles prises en charge dans les camps décrivent des conditions de vie très difficiles et manquent de nourriture. En 2024, plus de 30 000 personnes ont été expulsées d'Algérie, un record.
Clotilde Hazard, des milliers de vestiges archéologiques rendus à un pays africain. Mais on ne parle pas là de restitution post-coloniale. Ce sont les États-Unis, en fait, qui ont rendu cette semaine pratiquement 12 000 pièces de musée à la Tunisie. Des pièces qui datent de l'époque romaine, qui sont rentrées au pays en début de semaine, renvoyées par l'Université américaine de Géorgie. La Tunisie avait prêté ces pièces dans les années 90. Il a fallu un an de courrier diplomatique et universitaire entre les deux pays pour que, enfin, ce prêt fasse le chemin retour, Ouda Ibrahim.
C'est l'Institut national du patrimoine qui a reçu ce lot d'exactement 11 795 pièces archéologiques. Ces objets avaient été temporairement prêtés aux États-Unis dans le cadre de projets de coopération scientifique, mais jamais restitués jusqu'à ce jour. Selon Tariq El-Bakouch, le directeur général de l'IMP, ces objets sont composés de 3460 pièces de monnaie en bronze, de 2715 objets en ivoire, de bijoux, d'accessoires et d'outils de la vie quotidienne, ainsi que de 2825 pièces de verre, de céramique et de métal. Un communiqué du ministère des Affaires culturelles indique que ces vestiges ont été mis à jour lors des fouilles sur le site de Carthage, qui a eu lieu avec l'aide de 12 missions européennes et d'Amérique du Nord entre 1980 et 1990. La France, l'Italie, les États-Unis et le Canada ont bénéficié de milliers de pièces exportées pour études sous réserve de restitution, indique le communiqué.
Vincent Enyeama aura-t-il un successeur cette année comme lauréat du prix RFI France 24 Marc-Vivien Fauet? Le trophée du meilleur joueur africain de Ligue 1. On vous déroule jusqu'au 5 mai prochain les portraits des 12 nommés pour cette récompense. Et nous sommes ce matin face à l'unique portier de la sélection, Yahya Fofana, gardien ivoirien, vainqueur de la CAN avec les éléphants, mais taulier des cages du SCO d'Angers. Jusque-là donc, un seul gardien a remporté le prix Marc-Vivien Fauet. C'était il y a 11 ans, Victor Missistrano, peut-être donc un deuxième cette année.
C'est la première fois que Yahya Fofana fait partie des prétendants au trophée.
C'est vrai que j'avais soufflé son nom parce que je pense qu'il le mérite tout simplement.
Consultant de Radio Foot International, Franck Simon est membre du jury du prix Fauet. Il nous explique pourquoi le gardien d'Angers et des champions d'Afrique peut convoiter cette récompense.
Il est très important pour son club dans la quête du maintien. Il a encore progressé. La Coupe d'Afrique des Nations remportée l'an dernier lui a sans doute aidé à grandir, à devenir toujours plus efficace. Moi, je trouve que c'est un gardien qui a beaucoup progressé sur sa ligne. Par exemple, dans les 1 contre 1. Et ça, on le voit avec son club en championnat. On l'a vu aussi tout récemment en équipe nationale avec les éléphants de Côte d'Ivoire.
14e de Ligue 1 avec Angers, Yahya Fofana n'a manqué aucun match de championnat cette saison pour 48 buts encaissés. À 24 ans, le portier ivoirien d'1m94 a donc franchi un cap, selon Franck Simon, qui rappelle qu'il est toujours difficile pour un gardien de convoiter une récompense individuelle.
Alors, quand on marque des buts, quand on fait marquer, évidemment, ça peut compter plus dans la tête de un juré.
Jusqu'ici, le Nigérian Vincent Enyeama est le seul gardien lauréat du prix Fauet. C'était en 2014.
Victor Missistrano, le 5 mai, on connaîtra les 3 finalistes et le vainqueur de ce Marc-Vivien Fauet sera connu le lundi 12 mai prochain.
Afrique Matin sur RFI.
Afrique Matin, acte 2 avec les avocats kényans qui vont arriver sur les étals européens. La Côte d'Ivoire qui veut jouer sur le tourisme d'affaires, secteur niche mais secteur clé qui peut rapporter gros. Et l'ancien ministre malgache des Affaires étrangères à notre micro pour évoquer de nouveau la commission de l'océan Indien. Tout cela d'ici au journal de 4h TU dans tout juste 16 minutes. À 3h44 en temps universel, le reportage de la rédaction d'abord dans l'un des endroits de Bangui qui symbolise peut-être le mieux la réconciliation centrafricaine. Nous sommes dans la mosquée de Lakwanga, 2e arrondissement de la capitale. En 2014, au plus fort de la crise entre Séléka et Antibalaka, le lieu de culte a été quasiment détruit, pillé, vandalisé. Il a connu une première reconstruction, mais dès l'année suivante, la mosquée était pillée de nouveau. Il y a tout juste 10 ans, le 24 avril 2015, des jeunes du quartier, essentiellement chrétiens d'ailleurs, entreprenaient de reconstruire et de restaurer cette mosquée. Et ça tient toujours, aujourd'hui plus que jamais. Reportage Rolf Steve Domialeux.
Sur le toit de la mosquée de la Kwanga, le muezzin est confortablement installé dans une pièce décorée de versets coraniques. À ses côtés, une horloge affiche les heures des cinq prières qui rythment la journée des fidèles. Christian Emendota est l'initiateur de la réhabilitation. Ce journaliste et partisan de paix habitait non loin de la mosquée. Aujourd'hui, il regarde fièrement les fidèles qui arrivent dans ce lieu sacré où les musulmans étaient indésirables entre 2014 et 2015.
On a vu cette foule converger vers la rue de la mosquée. Et on était là impuissants, et on a entendu des bruits de destruction. Et après, on a vu des gens repartir, certains avec des tapis de prière, des tôles, certains avec des chaises. Même d'autres ont pris des appareils de sonorisation. Il y a eu le vol, il y a eu le vandalisme.
À quelques mètres de la mosquée, Mario, un jeune de confession chrétienne, enlève ses lunettes noires pour bien regarder le bâtiment réhabilité. Il fait partie de ceux qui avaient protégé la mosquée.
Le jour où ils ont détruit la mosquée de la Kwanga, j'avais écrit sur Internet. J'envoyais des textos, on faisait des réunions, on mobilisait les jeunes pour dire que nous, on est natifs de la Kwanga. On a vécu ensemble avec tous les musulmans qui vivaient ici à la Kwanga. C'est pas à nous de venir détruire la mosquée, respecter la confession de tout un chacun.
Détruite en mai 2014, la mosquée de la Kwanga avait pourtant été réhabilitée avant d'être à nouveau détruite en 2015. Grâce à la mobilisation des habitants du secteur et quelques bienfaiteurs, les travaux de réhabilitation ont été relancés le 24 avril 2015. Christian Aimé Ndota.
10 ans après, ça c'est comme un symbole. Et en bâtissant cette mosquée, c'était une manière de montrer à ceux qui n'aiment pas la paix dans ce pays que c'est véritablement un symbole de paix pour que la République centrafricaine demeure définitivement dans la paix et la réconciliation.
À l'intérieur de la mosquée, plusieurs centaines de fidèles sont assis sur des nattes ou des tapis dans le respect de la tradition. Dans sa prédication, l'imam Salih Ndiaye insiste sur le mot « pardon ».
La mosquée de la Kwanga est un lieu sacré. Lorsque tu détruis un lieu sacré, tu attises la colère de Dieu sur toi. Il ne faut pas que les manipulations politiques nous poussent à diviser le peuple en faisant une guerre de religion.
Chaque semaine depuis 10 ans, un comité de paix sensibilise les habitants de la Kwanga et des autres quartiers de la capitale sur la préservation des lieux sacrés lors des mouvements de colère. Rolf Esteve, Donnale, Bongi, RFI.
Les reportages de la rédaction, vous les réécoutez quand vous le voulez sur notre application dédiée RFI Pure Radio. Notre invité dans une minute.
RFI, toute l'actualité, Édouard Dupenoit.
Avant cela, les grands titres de l'actualité internationale de ce 24 avril. 9 personnes au moins ont été tuées, 63 autres blessées cette nuit, dont des enfants, dans une attaque de missiles russes sur Kiev, capitale ukrainienne. Des frappes signalées également contre Kharkiv et d'autres villes du pays. À Washington, Donald Trump s'en est pris violemment hier au président ukrainien Volodymyr Zelensky en l'accusant, je cite, de tenir des propos incendiaires sur la Crimée annexée par la Russie en 2014, au moment où un accord avec Moscou serait très proche, selon lui. Donald Trump toujours qui évoque la possibilité d'un accord commercial équitable avec la Chine. Avant-hier, le président américain évoquait la possibilité d'une baisse substantielle des droits de douane sur les marchandises en provenance de Pékin. Quelques heures plus tôt, la Chine se disait ouverte à des discussions avec Washington. L'Inde, qui prend une série de mesures diplomatiques punitives contre le Pakistan, elle l'accuse de terrorisme transfrontalier après une attaque meurtrière contre des touristes au Cachemire, attaque qui a fait 26 morts. Cet attentat a porté les relations entre les deux voisins, dotés de l'arme nucléaire, à leur pire niveau depuis des années. Les États de l'océan Indien sont donc réunis en commission à Antananarivo aujourd'hui encore, et l'on continue d'en parler avec l'invité de la rédaction. Cette zone du globe où les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Iran ont chacun leurs propres intérêts, une zone qui englobe aussi des trésors écologiques et environnementaux. C'est pour les protéger d'ailleurs que la commission a été créée officiellement il y a plus de 40 ans. Une zone, enfin, où la France tente encore de peser davantage, malgré les tensions que cela suscite, notamment avec les Comores et avec Madagascar. On parle de tout cela avec l'invité Afrique de RFI ce matin, Richard Ranjamandrat, ancien ministre malgache des Affaires étrangères. Il répond à Christophe Boisbouvier.
Richard Ranjamandrat, bonjour.
Bonjour.
La réunion de la commission est marquée aujourd'hui par la présence du chef d'État d'une grande puissance, c'est le français Emmanuel Macron. Est-ce que cette présence peut raviver des querelles territoriales ?
Non, je ne pense pas. Je pense que les chefs d'État ne vont pas soulever des sujets sensibles. Au contraire, il faut chercher à unir les points de vue face notamment aux enjeux géostratégiques. Je pense que les chefs d'État ont tout intérêt à éviter des sujets qui fâchent pour faire face aux défis du développement durable, puisque c'est autour des 17 objectifs de développement durable que la Commission de l'océan Indien, en 1982, a vu le jour. Pas l'oublier. Donc maintenant, je pense que le plan de développement stratégique 2023-2033 va certainement permettre aussi à nos pays d'aller de l'avant.
L'un des sujets qui fâche à la Commission, c'est le sort de Mayotte. La France voudrait que cette île soit éligible au programme de la Commission de l'océan Indien, mais les Comores s'y opposent, puisqu'ils revendiquent ce territoire. Est-ce qu'il y a une solution ?
C'est un sujet qui, à mon sens, relève de la diplomatie bilatérale entre les Comores et la France.
L'un des arguments d'Emmanuel Macron pour Mayotte, c'est de dire que la France contribue déjà à hauteur de 40% au financement de la Commission de l'océan Indien.
Oui, la France est le premier pourvoyeur de financement avec l'Union européenne à travers l'Agence française de développement. Mais pour autant, ce n'est pas parce que Mayotte doit faire partie ou être toujours à l'écart de la Commission de l'océan Indien. Je pense une fois de plus que ce sujet relève de la diplomatie bilatérale et je me garderai à ce stade d'apporter un commentaire, quel qu'il soit, sur ce point.
Et est-ce que Madagascar pourrait pencher plutôt du côté des Comores ou plutôt de la France dans cette querelle ?
Non, une fois de plus, c'est un sujet, je crois, qui ne relève pas de ce cinquième sommet de l'océan Indien.
Autre sujet qui fâche, le sort des îles éparses. Il s'agit de ces 5 îlots sous administration française que Madagascar revendique depuis 1973. Comment voyez-vous l'issue de ce bras de fer ?
Il me semble que l'organisation d'une deuxième réunion de la commission mixte franco-malgache va se tenir dans les prochains jours. Je crois même que la date du 30 juin a été annoncée. Donc cela augure en fait une période encourageante en termes de discussion et c'est l'occasion de se retrouver autour des aspects sensibles sur le plan juridique, sur le plan historique, qui peut permettre d'asseoir un accord permettant de ne pas fragiliser la situation par exemple sur le plan de l'équilibre environnemental dans cette zone sensible, sur le plan de l'écosystème, de la protection de la faune et de la flore, de la sécurité maritime. Donc ce n'est pas un sujet qui va diviser la France et Madagascar. Au contraire, il faut saisir cette opportunité pour revoir un peu les copies sur les positions des uns et des autres.
À Paris, certains évoquent la possibilité d'une co-gestion entre la France et Madagascar. Est-ce que vous êtes pour un partage de souveraineté ou un transfert de souveraineté ?
Je n'ai pas à m'affirmer sur la nature de l'accord qui va se mettre en place. Il revient au chef d'État de se mettre d'accord sur l'aspect qui va permettre d'avoir une situation gagnant-gagnant, si je peux m'exprimer ainsi. Mais du moment qu'il y a un accord qui est mutuellement accepté, sans qu'il y ait, disons, d'amertume ou de sentiment de perte de souveraineté, à partir de là, je pense que tout ira pour le mieux. Je pense que l'essentiel, c'est que la France et Madagascar puissent être rassurés sur l'aspect sécuritaire, environnemental. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de perte de souveraineté de part et d'autre. C'est le point le plus important.
Emmanuel Macron a eu ce mot. Je viens à cette commission de l'océan Indien pour y défendre la place de la France dans l'océan Indien. Alors, vu de Madagascar, quel est le meilleur partenaire ? La France, la Russie ou la Chine ?
Sur ce point, Madagascar a choisi de ne pas choisir entre privilégier tel ou tel partenariat. Madagascar, depuis des années, depuis le président Ratsirek, a choisi une position d'ouverture.
Et quand Emmanuel Macron rappelle qu'il y a dans la zone Indo-Pacifique quelques 8000 militaires français, ça vous convient ou ça vous gêne ?
Non, cela ne porte pas, à mon avis, de menaces particulières. D'ailleurs, le grand chambardement maintenant sur le plan géostratégique fait en sorte qu'il faut bien faire attention sur les éventuels risques de déstabilisation. Donc, non, moi je ne m'en offusque pas pour autant.
Richard Randriamanrat, merci.
L'ancien ministre malgache des Affaires étrangères, invité ce matin de Christophe Boisbouvier. Il est 3h54, quasi à la seconde près en temps universel. Le dossier Afrique Éco nous parle de tourisme ce matin, mais d'un tourisme un peu particulier, le tourisme d'affaires. Nous sommes en Côte d'Ivoire, aux portes d'entrée du PEA, le parc des expositions d'Abidjan. Ça fait 2 ans qu'il accueille peu ou prou un grand événement par semaine, des congrès, des salons professionnels, des concerts aussi. Ce sont des milliers de spectateurs, donc des milliers de nuits d'hôtel, des gens qu'il faut nourrir aussi, de la consommation pour ces publics. En début d'année, le groupe, le mastodonte français GL Events, poids lourd du secteur, en a obtenu la gestion. Et l'idée, c'est encore de donner un franc coup d'accélérateur. Benoît Almeras.
Difficile d'échapper au dôme du PEA, l'installation géante est visible dès l'arrivée à Abidjan, à 2 km de l'aéroport. De quoi convaincre Yaya Sila, organisateur du SIAD, le salon de l'intelligence artificielle, de la défense et de l'espace.
Nous avons invité des sommités, tant au niveau de l'IA, tant au niveau de l'espace et de la défense, qui sont habitués à des environnements adaptés.
Yaya Sila a loué l'unique hall du parc des expositions, 6 500 m², négocié à partir de 8 millions de francs CFA la journée.
C'est un peu coûteux, mais ça vaut quand même la peine de montrer le sérieux de ce que nous faisons et surtout de montrer qu'en Afrique, il y a des infrastructures comparables à ceux de l'Occident.
La filiale ivoirienne de JL Events doit gérer le PEA jusqu'en 2030 au moins. Son directeur, Thierry Biscup, est entre autres chargé de promouvoir la destination Côte d'Ivoire pour les salons professionnels.
On est sur un marché d'exposition, de gros congrès. Ça veut dire que vous avez un nouvel équipement structurant nous permettant de pouvoir aller jouer en concurrence avec les autres destinations comme le Maroc, comme l'Égypte.
Et pour Thierry Biscup, le développement du tourisme d'affaires passe par des investissements supplémentaires en matière de transport aérien ou d'hôtellerie.
Imaginez que demain, on signe un congrès de 3-4 000 personnes, bah derrière c'est 3-4 000 chambres. Donc nous, ici, on n'est qu'un maillon de la chaîne sur Abidjan.
Les attentes du gouvernement sont fortes autour du PEA, qualifié de locomotive d'un secteur qui emploie 6 000 personnes et représente 50 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires chaque année. Agara Yao est l'un des responsables de Voodoo. Le premier groupe de communication ivoirien se serait bien vu gérer le PEA, mais l'arrivée de JL Events est tout de même vue comme une opportunité.
Il est indéniable que JL Events a une expérience donc internationale, qui a une offre en termes d'équipement technicité qui peut permettre justement aux organisateurs d'événements locaux de pouvoir avoir plus de possibilités qu'ils n'auraient eu sans eux.
Le ministère du Commerce et de l'Industrie espère 20 milliards de francs CFA de retombées économiques chaque année grâce au parc des expositions d'Abidjan. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Abidjan, où il est 3h57. Et l'actualité des matières premières qui remet le cap sur l'est du continent. On parle du Kenya qui envoie comme chaque année ses avocats et on parle des fruits bien sûr. Sur le marché européen, la fenêtre de tir n'est pas très grande. Les avocats kényans remplacent ceux du pourtour méditerranéen, mais ils seront remplacés eux-mêmes dans moins de 2 mois par les avocats venus du Pérou. C'est un marché difficile à tenir, Marie-Pierre Olfan.
Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour les exportateurs kényans. La crise en mer Rouge les oblige depuis l'année dernière à contourner le cap de Bonne-Espérance pour atteindre l'Europe. Un voyage qui dure à minima une trentaine de jours et qui pèse sur la qualité des fruits. L'année dernière, les avocats kényans ont quand même réussi à se frayer un chemin et à occuper la fenêtre de tir qui est la leur sur le marché européen, c'est-à-dire arriver entre la fin de la saison des pays méditerranéens et le début de celle du Pérou. Mais la production péruvienne qui arrive s'annonce record, contrairement à 2024. L'horizon qui était plutôt dégagé l'année dernière et avait permis la commercialisation des avocats kényans s'annonce beaucoup plus bouché cette année. Dès que l'origine péruvienne déferle dans les commerces européens, les avocats kényans sont forcés de se retirer. C'est la dure loi du commerce et cet effacement de l'origine kényane que l'on constate début juin en général est d'autant plus marqué que les quantités qui arrivent du Pérou sont grandes. L'avocat péruvien est difficile à concurrencer, il est aussi beaucoup plus standard car il a poussé dans des vergers plus modernes et plus productifs. Ses coûts de production sont plus bas et les prix très compétitifs. Chaque année, on l'observe, à partir de fin mai ou début juin, quand la vague péruvienne arrive, les prix s'effondrent et sont quasiment divisés par deux dans les pays européens. Dans ce contexte difficile, les exportateurs kényans cherchent d'autres débouchés. Ils ont réussi à prendre quelque part de marché en Asie et se reportent autant qu'ils peuvent vers les marchés des pays du Golfe. L'autre débouché qui a le vent en poupe, c'est la transformation d'avocats en huile. Elle permet en particulier d'écouler la production qui n'a pas la qualité requise pour être exportée en frais. En un an, on compte une dizaine de projets de sites d'extraction supplémentaires. Plusieurs d'entre eux sont entrés en activité et s'ajoutent à la vingtaine d'unités déjà existantes au Kenya.
Marie-Pierre Olfan pour l'actualité des matières premières sur la Radio du Monde. Et pour boucler cette première demi-heure d'information réalisée par Anaël, Le Noël, le journal revient dans tout juste 30 secondes. Merci de votre fidélité sur Radio France Internationale.
Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.